En cette période de Noël, Truelle et Sac à dos vous proposent un voyage en terre de beurre. Deux émissions spéciales consacrées à la médiation d'un patrimoine immatériel breton archéologique et gastronomique. Bon d'accord, ce ne sont pas les Bretons qui sont à l'origine du beurre, mais quand même, nous en mangeons depuis la préhistoire. Et à Landévennec, nul doute sur la présence d'un petit morceau de beurre glissé sur les galetières du XIIIe siècle retrouvé en fouille pour rendre la crêpe encore meilleure. Allez, direction le centre Bretagne pour découvrir l'association de sauvegarde du patrimoine spézétois et l'un des derniers pardons dédiés au beurre. Nous sommes à Lehan et je suis venue à la rencontre donc de Christelle Henry. C'est la vice-présidente de l'association de sauvegarde du patrimoine spézétois. Alors, comme je fais à chaque fois maintenant, vous allez comprendre hein, pour chaque émission de Truelle et Sac à dos, eh bien, je vais demander à Christelle. Christelle, parlez-nous de vous.
Alors, Céline, moi, je vais te dire tout de suite que je suis une grande passionnée d'histoire, toujours à la recherche de mon histoire, parce que j'ai une histoire un petit peu compliquée. Donc, on dit souvent que son passé familial revient comme oui. À cheval au galop. Mon arrière-grand-père est parti aux États-Unis dans les années 1929. Il a laissé sa femme enceinte de mon grand-père. Donc mon grand-père est né 3 mois après le départ de mon arrière-grand-père pour Lodi, Patterson. Donc en pleine crise de 29, comme tout le monde le sait. Et donc mon grand-père a eu beaucoup de chagrin au départ de sa vie parce qu'il ne connaissait pas son père. Et je pense que mon grand-père a été toujours traumatisé par cette histoire et il a toujours été à la recherche de son passé, de ses origines, de son histoire.
Donc il a vécu toute sa petite enfance sans avoir vu son père, quoi.
Exactement. Et quand son père est rentré à la maison,
il ne reconnaissait même pas.
C'était un inconnu.
Ouais.
Et ils ont eu beaucoup de mal à se connaître, se reconnaître. Mon grand-père, ça l'a beaucoup marqué. Et il a toujours été à la recherche de ses origines.
D'accord.
Et de son histoire. Et il nous a transmis à mon papa, puis à moi, l'envie de connaître notre histoire et de tout ce qui fait notre histoire. C'est-à-dire notre quotidien. C'était la ferme chez eux, mais c'était aussi notre environnement, le patrimoine. Donc j'ai toujours baigné dans cette atmosphère-là. Et j'ai eu très tôt envie de faire des études d'histoire.
D'accord. Et alors, justement, maintenant, après avoir fait des études d'histoire, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie et puis comment t'es venue à faire de l'associatif sur le territoire ici, en Centre-Bretagne?
Alors, j'ai pas un métier lié à l'histoire, hein, c'est curieux, mais en fait, je suis rentrée à la poste pour payer mes études d'histoire.
Et c'est beaucoup de petits boulots comme ça au début, c'est ça, ouais.
Ouais. Voilà, et donc je suis rentrée à la poste, ils m'ont gardée par la force des choses. Et quand on est facteur, au départ, quand j'ai commencé, c'était du 7h-14h ou du 7h-13h30. Ça permettait de continuer à faire des recherches, à écrire et en même temps d'avoir du temps pour faire
autre chose
que de travailler. Je suis rentrée tout en travaillant à la poste et tout en faisant mes études. Je suis aussi rentrée dans l'association. Tout ça un petit peu lié, c'était dans les mêmes périodes, quoi. Donc je suis rentrée dans l'association bien plus tôt. J'ai dû rentrer en 2000 avec Geneviève Parazère. Il y a le patrimoine, l'association patrimoine, mais à Spézet, il y a un terreau culturel et associatif très riche. Donc aussi, je fais partie de l'association.
Oui, c'est ça, t'es pas que sur cette association. Moi, j'ai mis en avant le fait que t'étais vice-présidente de l'association de sauvegarde du patrimoine spézétois, mais t'es dans plein d'associations, quoi.
Oui, en gros, oui, parce que je pense que pour faire vivre un bourg, il faut aussi donner de son temps, il faut donner un peu de soi aussi. Donc, du coup, c'est vrai que je suis rentrée en 2004 dans l'association Argaon Glass Pencaz, et puis j'y suis restée, et puis j'ai pris quelques petites fonctions de secrétaire.
Ouais. Et alors, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure, le patrimoine, c'est important. Toi, tu penses qu'il y a aussi une richesse qui est liée à ton histoire personnelle. Et puis aujourd'hui, en quoi c'est important à tes yeux, justement, de défendre ce patrimoine au niveau local?
Au niveau local, on a un patrimoine qui n'est pas toujours reconnu. Malheureusement, vous le voyez beaucoup sur beaucoup de communes, on voit les talus qui s'en vont, du petit patrimoine comme les fours à pain, les fontaines, qui avaient une fonction parfois vital, parce que sans le four à pain, on n'avait pas de pain. Alors que c'était quand
sans
même...
l'avoir, sans c'est l'avoir, compliqué aussi,
c'est
quoi.
Ça. Ouais, ouais. Et justement, on voit même des chemins, comme on parle de randonnée, ouais. On voit des chemins disparaître aussi, et ça, c'est bien dommage. Et je crois que les gens ne prennent pas conscience. Bon, il y a des gens quand même qui prennent conscience que ces éléments sont importants, mais d'autres, ils n'en voient pas l'intérêt. Et je trouve ça dommage, parce que ça fait partie... De notre histoire.
Ouais, c'est ça.
Ils sont là depuis 500 ans, peut-être
même plus. Parfois, ouais,
même
ouais.
On parlait de dolmen, de ouais. Tout ça nous renseigne sur d'où on vient.
Et alors justement, est-ce que tu pourrais nous citer quelques projets sur lesquels toi tu as travaillé, tu as œuvré sur ce territoire-là et que tu aurais mené?
C'est vrai qu'on a fait plusieurs expositions, des livrets, on a fait des balades, on a fait un livre sur Spézet aussi. Spézet dans le XXe siècle.
Ouais.
On a recensé aussi tous les poilus qui étaient sur le monument aux morts. On a essayé de retracer leur histoire.
Alors là, c'était sur l'histoire de la commune de Spézet. Donc,
ouais, ouais,
et
ouais.
Quand est-ce qu'il est sorti, ce livre-là?
Sur l'histoire sur Spézet. C'était dans les années 2016-2017, si je me souviens bien.
Donc là, il y a eu tout un travail de recherche oui. Auprès alors des descendants peut-être de ces
On a fait du travail d'un... oui, on a fait ouais. On avait fait un appel à collectage pour savoir si des gens avaient encore des photos. On a travaillé sur des témoignages, on avait trouvé un carnet dans un grenier qu'on nous avait prêté et du coup, on l'a tout décrypté, c'est Ouais, on avait fait un
pour extraire vraiment toutes les informations qui pouvaient être dites.
Ouais.
Et alors, il y a eu une exposition.
Oui, en 2014. C'était
d'accord.
En 2014.
Et qui a donné lieu donc à une publication.
Ouais, une publication. Et on a fait après, on a rebondi, on a fait un travail plus global sur toute l'histoire de la commune au XXe siècle.
Ah, et c'est ce qui a donné le parcours peut-être aussi de la commune.
Exactement,
par la suite.
Ça aussi après.
C'était en lien quoi.
Exactement.
En termes de recherche.
En fait, ce petit parcours, j'y tenais. Vraiment, vraiment, parce que les gens, ils venaient dans le bourg, ils regardaient,
ils ne connaissaient pas,
ouais. Et puis, bah, on a des choses à montrer dans le bourg de Spézet. On a certes la chapelle du crâne, qui est du XVIe siècle, avec ses beaux vitraux et ses beaux retables.
Et puis pendant pas mal d'années, on a eu une église un peu fermée.
Voilà, qui a été en restauration,
ouais.
À cause de sa charpente qui était un peu fébrile. Mais on a aussi l'église, mais on a aussi l'ossuaire, on a un presbytère du XVIe siècle, dont les travaux sont actuellement... lancé puisqu'il va être les deux bâtiments vont être restaurés pour devenir une école de musique intercommunale. On a un vieux quartier comme celui de Plaine-Clairpoise. Après on peut visiter quand elle ouvrira peut-être après dans quelques mois l'exposition de la Savoterie. On a plein d'éléments visibles dans le bourg de Spézet qu'il fallait absolument montrer aux gens, mais montrer ça veut dire qu'il fallait imaginer un cheminement dans le bourg et créer une histoire ou des histoires pour attirer
pour que les gens comprennent un peu
ce
qui s'y passait quoi.
Exactement.
Et le livre permet aussi après d'emmener un petit peu de Spézet chez soi quoi.
Exactement, même dans les maisons de retraite, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement qu'avoir acheté un livre pour une dame originaire de Spézet qui a passé quasiment toute sa vie à Paris et elle est dans une maison de retraite du coin pour finir sa vie. Elle n'avait pas le livre et on lui a acheté le livre où elle retrouve tout ce qu'elle a connu,
son
enfance spézétoise dans le livre.
Dans
et ça, c'est anecdotique,
ouais,
mais en même temps... Ce qui est rigolo, c'est
ça
que...
Ça montre aussi ce que ça apporte, quoi,
c'est
en
ça.
Termes de contenu.
C'est
et
ça.
Quand on est éloigné aussi de son bourg, parce que voilà, on est en fin de vie, ou
c'est
on
ça.
Sait qu'on n'y retournera peut-être pas forcément. Et,
c'est ça.
Et de retrouver aussi ses origines, comme tu disais tout à l'heure, quoi, des souvenirs liés à son enfance.
C'est ça. Et puis, c'est rigolo, parce que ce livre-là, cette personne ne l'avait pas, et c'est sa voisine de chambre, ou quelqu'un qui était avec elle à la maison de retraite, qui avait le livre, et... Elle s'est tout de suite prise de passion. Ça,
pour ce... le livre.
Voilà, c'est ça. Et donc, le mari de la dame, il lui a acheté un livre pour elle, pour qu'elle passe son temps à la maison de retraite à consulter ce livre.
Et ça lui crée... C'est un ouvrage que vous avez publié en auto-édition avec l'association ou...
C'est l'association a sollicité les éditions des Montagnes Noires pour... pour sortir ce livre. Donc, il est toujours en vente aux éditions des Montagnes Noires, à Gourin.
D'accord.
Ouais.
Et Alors, justement, parce qu'on parle de livres, d'expositions, ma question que je pose aussi assez régulièrement maintenant, c'est quoi la médiation du patrimoine pour toi ?
Alors, pour moi, c'était de faire comprendre aux habitants d'un territoire, de leur montrer les richesses dont ils disposent. À Spézet, on a vraiment la chance d'avoir cette chapelle, cette église, mais les gens ne connaissent même pas l'histoire des lieux. C'est ça qui est incroyable, quoi. Comment les amener à s'intéresser et surtout à sauvegarder les lieux, parce que c'est ça le principal. Ces lieux, ils sont là depuis, je vous disais, 500, 400, 300 ans, mais c'est aussi notre devoir de transmettre aux générations futures ces monuments qui nous ont été offert par nos aînés,
oui,
nos ancêtres. Voilà,
à
c'est
leur
ça.
Aussi,
et ouais. Ça serait triste que nous, notre génération ou les générations qui viennent après
compte,
nous,
ouais.
N'en tiennent plus compte. Et puis, bah voilà, il y avait bien là une chapelle, hein, c'est tout. Il y a un trou à la place.
Ça, là, il y avait un
voilà,
alignement.
C'est ça.
Oh, il gênait un peu, alors on l'a poussé.
C'est ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose de très important pour dire aux gens, oh là, faites attention, on ne fait pas n'importe quoi. Ça se respecte. Il faut les préserver.
Et alors, dans la continuité de cette question, c'était pourquoi ça te semble nécessaire d'en faire à Spézet plus particulièrement, justement, cette médiation ? Parce que tu es plus attachée, au final, à cette commune-là.
D'abord parce que je suis une Spézétoise pure beurre. Même si je ne suis là, même si je suis venue vivre à Le Han, c'était pas forcément.
C'est pas très loin non plus quand même. Hein,
non,
ça va.
Mais les Spézétois, je pense, ont un lien particulier entre eux. Je ne sais pas m'expliquer, je pense qu'il doit y avoir un petit peu une identité de Spézétoise parce que quand on se retrouve à l'extérieur, ça m'est arrivé. Quand j'étais factrice à Châteaulin, dire « Ah, bah t'es spézétoise, moi aussi je suis spézétoise, alors tu connais machin, mais oui !» Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose de très fort.
Ouais, sur Spézet.
Ouais, je pense qu'on a quelque chose de très, très fort au niveau culture.
Une dynamique culturelle qui est quand même importante, ou même sportive aussi, parce qu'entre l'école de foot, l'école de Gourette,
exactement.
Il y a pas mal de
Mais je ne saurais pas m'expliquer le comment du pourquoi.
Mais ça tombe bien que tu me parles de pur beurre de Spézet, parce que moi, j'aimerais parler de l'exposition sur le beurre, sur l'histoire de beurre, bien évidemment. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'histoire de beurre ?
Alors, moi, j'ai vu seulement l'exposition s'installer après la grande exposition de Saint-Brieuc, parce qu'à l'origine, c'est un morceau de la grande exposition de Saint-Brieuc.
Mais c'était en lien avec la construction de la Maison Bleue.
Exactement,
ouais.
Je crois.
Pas de la construction, de la restauration, parce que la Maison Bleue était déjà là.
Oui. Toute cette maison, elle a un passé, elle a été restaurée.
Et d'ailleurs, c'était quoi la Maison Bleue avant d'être une
c'était
bibliothèque
un magasin de chaussures et un bistrot. Dans les années 30, c'était le magasin Le Guern qui faisait magasin de chaussures et bistrot.
Chaussures et bistrot.
Et bistrot, ouais.
Ça, c'est original, ça.
Ouais, c'est rigolo.
C'est plutôt le café-librairie. Enfin,
c'est ça,
plus tendance aujourd'hui.
Ouais.
C'est café-chaussures, quoi.
Oui, ouais. Mais à Spézet, Spézet a une réputation de Las Vegas des Barbretons, hein. Mais à Spézet, quasiment chaque commerce avait un bistrot à l'époque, dans les années 30, 40, 50. Hein. Et chaque commerce avait épicerie, Maréchal Ferrand, vous imaginez tous les petits commerces qu'il y avait avant. Presque chacun d'entre eux avait un coin bistrot.
À l'intérieur. Quoi.
À l'intérieur. Donc du coup, la Maison Bleue, à l'origine, était un café.
Un café
chouze. Un café chouze, ouais. Et après, ça a même été un salon de coiffure aussi, avec un bistrot. Martine, la coiffeuse, m'avait raconté il n'y a pas longtemps que sa mère s'était installée là, elle avait installé son salon de coiffure, et une fois l'an, au minimum, elle ouvrait un bistrot pour ne pas perdre la licence du lieu.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
Du moment qu'elle ouvrait au moins une fois ou deux par an, ça permettait de conserver sa licence.
Exactement. C'est très plaisant.
Truc
disait, c'était
ouais. C'est ça, parce qu'en même temps, Spézet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une espèce d'attachement culturel. Moi, je sais que quand je suis arrivée, il y avait aussi cette histoire de... C'est quand même le village qui avait sa propre monnaie, quoi.
Exactement, les lures.
C'est ça.
Ouais, c'est lors de la fête de la langue bretonne. C'est d'ailleurs aussi ça qui a fait un petit peu sa réputation un temps, quoi, Gouelard-Brézonec. Donc, beaucoup à Spézet sont nostalgiques... De ce temps culturel très fort dans les années 80-90, il y a eu un formidable terreau culturel à Spézet. Il y a eu la fête des Colmore. Il y a eu tout un tas d'animations. Il y avait une vie culturelle très riche qui s'est peu à peu essoufflée. On avait des grands artistes comme Igor, Pierre Denis. C'était une formidable force de vie.
Ça faisait la bande de copains qui animait et puis ouais. Qui ramenait d'autres copains.
Ouais,
et tout le monde se retrouve.
Paul Lecoq, Ronan ouais. Broustal. Il y a eu les Diaoulettes avec Menescam. C'était bien avant tout ça, mais dans les années 80-90, Spézet était très remuante. C'était vraiment. Tout était prétexte
à trouver une animation
ou à manifester. Ouais, justement, ça, ouais. la Maison de Bleu était le phare de toute cette animation, quoi. Parce que, il y avait. Beaucoup d'associations comme Seattle avec Paul Lecoq et quelques autres. Il y avait Scott Warney qui s'est installé là bien avant la rénovation de la maison.
Scott Warney faisait tout ce qui était herboristerie, collectage des plantes.
Exactement, avec Viviane Carlier.
Qui aujourd'hui s'occupe toujours du projet Flora Exactement. Américaine d'ailleurs.
Exactement, ouais. Donc cette maison bleue c'était... un phare dans Spézet, un phare culturel. C'était le lieu justement de la banque de la Gouale Arpozonec aussi. C'était quelque chose.
Ouais, donc c'était naturel que cette exposition elle puisse prendre place dans ce lieu qui allait être transformé en lieu central avec la bibliothèque.
Exactement.
Il y a la Cyberbase aussi.
Exactement.
Tout était positionné ouais. là en cœur de bourg. Quoi.
C'est ça, ouais. D'autant plus que pourquoi une exposition sur le beurre? À Spézet, quand même, on est un des derniers pardons du beurre en Bretagne. Hein.
Ouais.
On faisait. Peut-être que le Covid a malmené cette tradition. Bon, la population vieillissante aussi qui faisait la mode de beurre. Mais on faisait une grande mode de beurre. Auparavant, c'était 3 modes de beurre. Maintenant, il n'y en a plus qu'une. Mais c'était légitime qu'on ait une exposition sur le beurre à Spézet, à cause de ce dernier pardon du beurre.
Oui, qui était tout à fait en lien avec l'histoire du lieu.
Avec l'histoire du lieu.
Et alors, comment tu imagines justement l'avenir de cette exposition aujourd'hui?
Alors, j'espère que cette exposition va peut-être trouver une nouvelle vie,
un nouveau souffle.
Moi, j'aimerais bien qu'elle se trouve dans un endroit plus vaste, dans un lieu plus accueillant peut-être,
qui la valorise davantage.
Ouais. Ouais, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire. J'aimerais une exposition plus vivante avec de l'image, du son, des témoignages, de la vidéo, mais il y a vraiment un réel potentiel à raconter toute cette histoire de la tradition sur la mode du beurre, sur le pardon, mais aussi l'histoire du beurre, la fabrication du beurre, c'est quelque chose d'important parce que le beurre c'était quand même la nourriture de base du breton, et puis c'est surtout, ça permettait de faire vivre des familles.
Ouais.
Je vois, mes arrière-grand-mères, elles vendaient du beurre, elles nourrissaient la famille comme ça.
Grâce au beurre.
Il y a plusieurs personnes qui me disaient, j'ai été chercher du beurre chez tes arrière-grand-mères. Et mes mamies, elles vivaient de ça. Ma grand-mère a appris très tôt à faire un baratté, à écrémer le lait pour faire du beurre. Et aujourd'hui...
C'était une plus-value du lait, quoi. C'était faire un peu plus d'argent qu'en vendant juste le lait.
Ouais, elles vendaient quasiment pas de lait.
Ouais.
C'était le beurre. Les dames du bourg, les femmes de notables, elles venaient chercher du beurre chez mes grand-mères, mes arrière-grand-mères, parce qu'elles permettaient de vivre, de nourrir les enfants. Elles ne vivaient pas de grand-chose, mais ça permettait d'avoir de l'argent de côté, quoi. Monnaies sonnantes et trébuchantes, quoi.
Oui, ouais, qui permet après d'aller acheter autre chose dont on a besoin.
Sucre, de la farine.
C'est
un autre temps que maintenant. Il n'y avait pas de smartphone encore. Alors, on n'avait pas besoin d'acheter le dernier iPhone, si on peut faire de la pub, mais... voilà quoi, donc moi je tiens à cette exposition.
Le dernier Samsung, comme ça tu donnes deux marques, c'est comme sur les autres radios.
Ouais.
C'est Radio Évasion, on ne donne pas de marque.
Désolée. Je crois que chaque famille spézétoise qui se respecte, dans chaque famille spézétoise, chacun faisait son beurre et il ne faut pas oublier ça, quoi. Ça fait partie de nos racines. Faire son beurre, exactement.
Son beurre.
Et c'est effrayant de savoir aujourd'hui qu'il y a des gens qui ne savent pas comment on fabrique du beurre.
Oui, il est tout fait en fait, tu l'achètes.
C'est ça.
C'est comme ça qu'il sort.
C'est dans le papier, ouais. C'est déjà dans le papier.
C'est ça.
Ça sort du cul de la vache, tu vois.
C'est ça.
Ouais.
Alors, du coup, quels sont les futurs projets qui sont liés alors, au patrimoine de manière générale, je suppose, mais que vous avez, vous, au sein de l'asso, et puis peut-être toi aussi, par ailleurs, parce que tu parlais d'écriture, je pense que tu as plein d'autres choses, peut-être aussi.
Alors, du coup, pour l'association, le prochain travail, c'est justement... C'est la restauration du vitrail de la Nativité à la chapelle. Oui, c'est en cours. Moi, j'aimerais bien qu'après, pour inaugurer justement cette restauration, qu'on fasse une exposition. Je trouve que la Nativité, surtout en ce moment, les fêtes de Noël, je crois que c'est très très important pour tout le monde. Aujourd'hui, au-delà de l'aspect commercial, on a besoin de chaleur, de se retrouver autour d'un thème fédérateur. On n'a pas besoin forcément d'être croyant pour avoir de la lumière dans ses yeux le jour de Noël ou pendant les fêtes de l'Avent. Il faut juste des petites animations comme ça pour qu'on se retrouve autour...
De quelque chose de beau, des gens qu'on aime bien,
voilà,
et
c'est ça.
De se retrouver tous ensemble.
C'est ça. Je voyais à l'AS des mamies qui emmènent leurs petits-enfants visiter des crèches. Les enfants, ils sont émerveillés.
Ouais. Hein. Oh, c'est encore ce côté pur.
Ouais, féerie.
J'y crois et c'est génial ça, quand je le vois. Ça surprend toujours, quoi, les yeux qui brillent.
C'est ça. c'est Noël avant l'heure, quand
c'est
on
ça,
dit,
ouais.
quoi, quand on se retrouve. Dans l'exposition de l'abbé Galerne à Lignoles, là, mais c'est merveilleux. On se demande comment un tel homme a pu avoir cette passion pour ces crèches-là, mais je trouve ça extraordinaire.
Alors, l'abbé Galerne, est-ce que tu peux nous en dire deux mots un petit peu? Parce que du coup.
Alors, si je ne me trompe pas, ce monsieur, il faisait aussi des expositions avant à l'église de Luiscriff, de crèche de Noël. Et maintenant, il est retiré. Ça s'appelle l'Ermitage à Lignoles. Et cette année, je crois qu'il va relancer, d'après ce que j'ai pu voir, son exposition de crèche en décembre à Lignoles. Et c'est cet homme... a collectionné quasiment toute sa vie, si je ne raconte pas de bêtises, des crèches de Noël. Il allait même très loin en chercher, je crois, en Europe, à travers le monde, où il en reçoit aussi. Et c'est magique. Et je crois que cette année, le thème, ça sera l'Asie. Et moi, je conseille à tout le monde, dans la mesure du possible, parce que quand même, c'est pas un endroit très, très grand, mais c'est quelque chose, c'est quelque chose de beau. Ça, on retourne en enfance, on a ce goût de chocolat chaud, de biscuits. Quand on sort de là, on est heureux, quoi. On a quelque chose de,
et ça, on repart
de
avec,
merveilleux.
Avec le cœur plein, quoi.
C'est ça.
Et alors, pour terminer, quel conseil tu donnerais justement à ceux qui, comme toi, décideraient de s'engager dans la valorisation du patrimoine, qui voudraient s'y mettre là maintenant, parce que c'est ce qu'on se dit tout le temps, qu'on manque de bénévoles, de gens investis pour se battre un peu, pour valoriser, sauvegarder tout ça?
Alors, moi, je pense avant tout qu'il faudrait être... faut être curieux et aller voir ce qui se fait ailleurs, à côté de chez nous, rencontrer, ne pas avoir peur d'aller voir les autres et de leur demander qu'est-ce qu'ils font, comment ils font.
D'engager la conversation.
C'est
quoi,
ça,
de se prendre en main.
Voilà, ouais. Ce qui me faisait toujours rire quand j'ai commencé à faire de la randonnée avec Ronan Broustal à Argaouen, au détour d'un chemin, il trouvait toujours quelqu'un, allait lui demander « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il engageait spontanément la conversation. Et on revenait toujours, après une randonnée, à se dire « Bah tiens, on avait vu tel type qui faisait telle chose. » Et on était riche d'avoir un savoir en plus. Et je pense que c'est ça. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les autres et d'apprendre...
Non, on n'ose plus forcément prendre, faire cette démarche-là.
Ouais, prendre des chemins de travers, c'est surtout ravaler un peu sa fierté parfois.
Sortir de sa zone de confort.
C'est ça. Exactement. Bon, parfois, on se prend des vents. Qu'est-ce qu'on y peut? Il y a des gens, ils ne veulent pas nous parler. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, c'est ça.
Dans le patrimoine, il faut tenter.
C'est ça. Il faut être curieux et voir... qu'est-ce qu'on peut faire et surtout, je pense qu'il faut vraiment, même si on passe parfois pour des casse-pieds, Il faut apprendre à dire, bah non, il faut faire attention à ce lieu, il faut pas le démolir, quoi. Il faut toujours être en alerte aussi et prendre sur soi à aller dire, bah non, moi je trouve qu'il faut pas le démolir cet endroit.
Mais c'est ça, toi, sur les projets que tu as eu à mener, au final, tu as appris aussi sur le terrain, en fait, à monter les dossiers, à faire les demandes de subventions,
J'ai eu de la chance parce que Claire, c'est une super technicienne pour ça. C'est quelqu'un qui est passionné au niveau des dossiers. Rien ne lui fait peur. Elle sait gravir la montagne, quoi.
Et toi, ça t'a appris à gravir la montagne aussi, quoi.
Ouais, je pense que... quand je suis rentrée avec Geneviève dans l'association Sauvegarde du patrimoine, et avec Claire, elles m'ont appris à me battre, à dire, bah non, rien n'est ridicule dans la vie, il faut se battre si on veut obtenir quelque chose. Et le patrimoine, il y a tellement de choses, il y a tellement de combats à mener qu'il faut y aller, quoi. Faut pas attendre parce que la vie, elle passe tellement vite et puis les choses vont tellement vite avec l'ère du numérique. Aujourd'hui, il faut zapper, il faut déblayer, donc faut toujours être vigilant et puis il faut y aller.
Bon, eh bien, merci beaucoup Christelle pour cette leçon de aller au patrimoine, combattre, c'est ce que je dis souvent, hein. Moi je me prends un peu pour Don Quichotte assez régulièrement qui combat ses moulins. Alors on va continuer de sillonner les routes avec Truelle et Sac à dos et on se retrouve bien tous les mercredis matins à 10h sur Radio Évasion. Eh bien merci beaucoup Christelle.
Bah de rien, avec plaisir Céline, on reviendra au Tea Time.
C'est ça, vive le Tea Time.
C'était le voyage en terre de beurre proposé par Archéolab pour finir cette année 2021 sur une note plus gourmande qu'archéologique. Entre l'exposition Histoire de beurre, la restauration du vitrail de la chapelle du crâne, l'atelier de sabotier de Yun Lefeu, les alignements de mégalithes, les fours, les fontaines ou bien les éditions Cobbraise, Spézet, entre Montagne Noire et Mont d'Arrée, reste une commune où la culture et le patrimoine breton creusent encore leur sillon grâce aux forces vives locales, les bénévoles. Et pour revenir sur l'abbé Galerne évoqué rapidement par Christelle, il a sillonné le monde pendant plus de 25 ans pour monter sa collection de crèches qui désormais ne sera plus présentée à Lignoles. Et comme à Spézet, de nombreux bénévoles recherchent une nouvelle solution pour qu'elle continue d'être visible. De notre côté, Truelle et Sac à dos repart à l'aventure pour cette nouvelle année 2022. Et nous comptons bien en prendre plein les yeux et vous en mettre plein les oreilles. Alors, blabez-moi.